retrouve tout de suite Antoine Spirey Staccato.
Merci Jean-Christophe Fougier. Staccato, France Culture, deuxième partie. Bonsoir à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir aux autres. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à Jean Moulin, nouvelle affaire créée par la parution du livre de Jacques Bénac aux éditions du Seuil, intitulé Les secrets de l'affaire Jean Moulin. Autre livre qui crée l'événement, celui de Pierre Péan, vie et mort de Jean Moulin chez Fayard. Pierre Péan sera notre témoin. Mais tout de suite, sur le grill, avec nous ce soir, d'abord un témoin, Serge Ravanel, auteur de L'Esprit de Résistance. Serge Ravanel a été résistant, jeune polytechnicien. On peut dire que Serge Ravanel, L'Esprit de Résistance au Seuil, qui vous a permis de raconter ce qu'a été votre résistance. Vous étiez colonel FFI à 24 ans. Vous avez été le dirigeant des forces militaires qui ont contribué à la libération de Toulouse. Les Allemands partaient, tout à l'heure j'ai dit libérateur de Toulouse, peu importe, 19 août 44, toujours est-il que à Toulouse, les forces résistantes sont dirigées par Serge Ravanel. En face de vous ce soir, Michel Cuny. Michel Cuny est écrivain, il a publié avec Françoise Petit-Demange un livre qui s'appelle « Fallait-il laisser mourir Jean Moulin ?», qui est un livre qui est intéressant parce qu'il reprend les éléments essentiels de l'affaire, au moment de Caluire, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé autour de Caluire et qui donne à la fois les tenants et les aboutissants de cette affaire de Caluire. Mais nous allons commencer par ce par quoi nous terminions tout à l'heure avec Crémieux-Briac, à savoir pourquoi ce retour périodique de l'affaire Moulin sous les feux de l'actualité. Je voudrais vous demander, Serge Ravanel, parce que avec l'esprit de résistance, vous avez consacré à la résistance un livre extrêmement important et qui permet de comprendre quel était l'esprit de quelqu'un qui résistait. Est-ce que vous pensez de cette manière qu'ont successivement un certain nombre de jeunes historiens, voire de journalistes, voire de gens qui ne sont pas historiens, de s'emparer du cas Moulin pour nous proposer des thèses qui chaque fois finalement retombent et font flop? Ça a été la thèse de Volton après celle d'un certain nombre de gens qui disaient « Moulin, agent communiste », thèse de Volton qui disait Thierry Volton, donc Moulin, agent de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, c'est la thèse de Bénac qui essaye de dire que Moulin, aux abois, en situation difficile, contacté qu'il aurait été quelques jours avant Caluire par un agent américain, aurait envisagé de quitter, ou en tout cas de prendre ses distances vis-à-vis de De Gaulle pour se rapprocher des Américains. Qu'est-ce que vous pensez de ces thèses successives qui finalement, chaque fois, font flop? Serge Ravanel.
Je ne suis pas dans la peau des auteurs. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre de façon précise. Je pense quand même que dans le monde où nous vivons aujourd'hui, un certain nombre de thèmes permet de faire vendre des livres. Et je ne saurais exclure de ma réflexion le fait que, je ne sais pas, mettons, après la mort de Mitterrand, je ne sais pas le nombre de livres qu'on a écrits sur Mitterrand. Et je pense que Jean Moulin est un sujet qui, très généralement, attire la curiosité et par conséquent les lecteurs. Et je crois que c'est évidemment un certain nombre de connaissances qu'on n'a pas encore tout à fait sur l'ensemble de cette affaire, et par conséquent je ne suis pas étonné que de temps en temps certains, je ne dirais pas historiens, parce qu'à mon avis ce ne sont pas des historiens, mais certains journalistes ou écrivains consacrent...
Serge Ravanel, alors d'accord, question commerciale, mais derrière la question commerciale, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une certaine mauvaise conscience des Français, et qu'ils éprouvent, de certains Français qui n'ont pas résisté, dont les familles n'ont pas résisté, et qu'on éprouve une certaine satisfaction à essayer périodiquement de dire, bah, vous savez, la résistance, c'était pas si simple que ça. Franchement, les uns ou les autres étaient inféodés à tel ou tel pouvoir, et que là, on toucherait un problème politique beaucoup plus profond, qui est la difficulté de la France à regarder sérieusement son passé en face.
Est-ce que vous pouvez dire qu'une certaine difficulté que la France a,
que des Français.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'un certain nombre de Français, depuis, d'ailleurs c'est quelque chose que nous connaissons depuis la Libération, on a connu les périodes où la résistance était attaquée à cause des exécutions sommaires à la Libération, ça s'est effondré parce que les chiffres qu'on citait étaient tellement absurdes que l'enquête qui a été faite a démontré que c'était tout à fait inexact. Il y a eu ensuite des tendances à présenter la résistance comme inféodée au communisme, et l'un des exemples, c'est Moulin, que l'on a présenté comme crypto-communiste. Enfin, il y a des vagues qu'on utilise successivement, mais nous constatons effectivement, et les organisations d'anciens résistants en émeuvent, une volonté délibérée, permanente et régulière de critiquer la résistance et de démontrer que finalement ça n'a pas été ce grand mouvement de fond populaire, national, et qui a vraiment représenté un élan de la France et un refus de toute fatalité.
Michel Cuny.
Oui, d'une façon générale, je pense que la culpabilité de chacun de nous par rapport à la trajectoire de Moulin est d'autant plus importante que ce personnage a laissé des traces écrites tout en laissant aussi sa vie dans cette histoire. On peut se demander si en mourant, Moulin n'a pas été le grand perdant de cette époque-là. Et par ailleurs, en laissant certains textes, on peut se demander s'il n'a pas été le grand vainqueur. Le texte le plus important, me semble-t-il, c'est le texte fondateur du CNR. Ce texte émane de la plume de Jean Moulin. Or, Jean Moulin y avait fait figurer un adverbe, et cet adverbe est essentiel dans un pays qui, comme la France, a connu la révolution de 1789, qui a posé le problème de la souveraineté du peuple. L'adverbe que Moulin a fait figurer dans le texte fondateur du CNR, c'était donc justement l'adverbe « souverainement ». Après-guerre, le général de Gaulle, dans ses mémoires, a donné en annexe un texte où l'adverbe « souverainement » a sauté, et ça ne peut pas être un fait de dactylo simplement, cet adverbe a été remplacé par 3 points de suspension.
Alors, avec cet adverbe, il qualifiait quoi exactement Moulin ?
Moulin qualifiait l'activité du Conseil de la Résistance, c'est-à-dire en gros, c'est le Conseil de la Résistance statuera souverainement.
Donc, alors là, vous m'entraînez sur un terrain qui est cher à M. Ravanel, parce que dans son livre, donc, qui s'appelle L'Esprit de Résistance et qui est paru au Seuil, j'ai été très frappé par le fait qu'il y a une petite divergence entre M. Ravanel et Jean Moulin, puisque quand il parle de la manière dont Pascal Copeau vous a parlé de Jean Moulin, vous dites Pascal Copeau m'a dit c'est un homme d'une exceptionnelle qualité, et puis bon, Jean Moulin vient d'être arrêté, par qui Jean Moulin sera-t-il remplacé? On aura du mal à trouver un homme ayant son caractère et sa compétence, donc on pourrait croire que tout va bien. Et puis quelques pages plus loin dans le livre de Ravanel, on trouve: nous n'étions pas toujours d'accord avec Jean Moulin, c'est sous votre plume, qui en fait ne faisait qu'appliquer les instructions de De Gaulle. Donc, si je comprends bien, M. Ravanel, il y avait une petite distance entre les résistants de l'intérieur et De Gaulle, et cette petite distance faisait que vous-même, vous considériez, contrairement à ce que dit donc Bénac, Moulin comme un envoyé de De Gaulle, c'était De Gaulle, ou l'homme de De Gaulle, et bah, vous auriez préféré, vous souhaitiez à l'époque, que le Conseil national de la résistance se prononce, comme Cuny vient de le dire, souverainement, c'est-à-dire sans autorité de De Gaulle par-dessus ce Conseil national de la résistance.
Je suis beaucoup plus nuancé, cher monsieur, beaucoup plus nuancé.
Alors allez-y,
les choses dans la vie ne sont pas comme ça.
Allez-y.
C'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense que tous mes camarades résistants reconnaissaient à Jean Moulin des exceptionnelles qualités. Tout le monde savait qu'il avait un mandat de De Gaulle et qu'il l'appliquait. Cela dit, mandat de Gaulle, ça veut dire des ordres qui ont été établis à Londres. Or il se trouve, et ça tout le monde le sait lorsqu'on est dans une entreprise et dans l'administration, le terrain, c'est pas la même chose que la tête. Faire un organigramme à Londres, c'est facile. Mais ensuite, sur le terrain, les choses sont pas tout à fait pareilles. Il est donc normal que dans le cadre même de la politique suivie par la résistance, il y ait des discussions, des débats, et qu'ils soient quelquefois durs. C'est tout à fait normal. Je dirais presque que
c'est, je ne sais pas si je vois les choses en noir ou blanc, mais vous écrivez, page 237 de votre livre, il y a une volonté constante de De Gaulle et de ses services de mettre aux ordres la résistance. Et
absolument.
C'est ni noir ni blanc, ça.
Mais bien entendu, ben, attendez, là encore, il y a ce désir, mais il n'en est pas moins vrai que dans la résistance, on discute, et que ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela, et la résistance, tout en étant absolument gaulliste, et je le répète parce que c'est un fait fondamental, elle a fait allégeance à De Gaulle, et elle l'a suivi, elle suit cette allégeance avec beaucoup de scrupules, il n'en est pas moins vrai que sur un certain nombre de points, on n'a pas appliqué les directives de De Gaulle, tout simplement, parce qu'elles étaient irréalistes. Et donc, on a fait autre chose.
Michel Cuny.
On pressent bien dans les propos de Serge Ravanel qu'il a vu un décalage tout de même important entre le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que pour Serge Ravanel, le CNR s'est inscrit comme pratiquement le seul viatique qui était le fait de chaque résistant. Ce que m'inspire toute cette question des rapports entre Moulin et De Gaulle, c'est que quand, par exemple, on présente Moulin comme l'unificateur de la résistance, on a tendance à croire que ça serait l'unificateur de la résistance gaulliste. Or, l'appartenance de Jean Moulin au Front Populaire permet de renvoyer cette unification au serment qui a été prêté en public le 14 juillet 1935, en présence de Maurice Thorez pour le Parti communiste, de Daladier pour les radicaux et de Blum pour les socialistes, serment de ne pas se séparer avant d'avoir mis fin au fascisme. Je crois que le rassemblement qui était celui voulu par Moulin se renvoyait directement à cette question de la lutte contre le fascisme. Cette question donc du fascisme, c'est donc aussi la question de la souveraineté, j'y reviens, d'un peuple comme le peuple français. Par ailleurs, je pense que Jean Moulin peut apparaître comme le crucifié d'une affaire dont le général de Gaulle serait le dieu, en un sens, c'est-à-dire celui qui peut délivrer la loi. Et nous sommes peut-être tous, avec la Constitution de 58, en face d'un phénomène qui dépasse pratiquement l'entendement humain. C'est-à-dire que cette culpabilité qui nous vient de la mort de Moulin, parce que je crois que nous portons tous cette culpabilité, c'est ce qui donne peut-être d'autant plus de force à cette constitution qui tout de même nous tient.
Alors je ne sais pas si on porte tous cette culpabilité, en tout cas il faut revenir sur la mort de Moulin. Alors Serge Ravanel, vous êtes extrêmement clair dans votre livre, dans l'esprit de résistance. Pour vous c'est clair, il y a eu beaucoup d'imprudence, mais Hardy a trahi. Il faut rappeler que arrêté le 7 juin, Hardy est remis en liberté le 10 au soir, sans avoir été torturé, et que le 21 juin, Moulin va être arrêté à Caluire, alors que Hardy, lui, va parvenir à s'échapper de Caluire. Alors, à propos de la nouvelle situation du créateur du CNR, vous posez la question, est-ce que nous pouvions faire quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui?
Alors, il est clair que quand on dit est-ce qu'on pouvait faire quelque chose, on s'adresse à moi. Puisque quelques jours auparavant, j'avais été nommé chef national des groupes francs du principal mouvement gaulliste d'époque qu'on appelait les Mouvements Unis de Résistance. Je venais de prendre mon commandement et on m'a évidemment tout de suite de dire Jean Moulin est arrêté. À l'époque d'ailleurs, on ne parlait pas de Jean Moulin mais Max. Oui, j'ignorais le nom de Jean Moulin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis trouvé tout à fait démuni. D'abord, on ne savait pas où était Jean Moulin. On pensait bien qu'il était arrêté par la Gestapo, mais on ne savait pas où il était. Puis on a appris qu'il était à la prison Montluc, mais on n'avait aucune autre information. L'idée d'attaquer une camionnette qui pourrait le transporter à l'avenue Berthelot nous est venue très vite, parce qu'on a bien compris que le lieu de détention était à quelques kilomètres du siège de la Gestapo, avenue Berthelot. Mais nous n'avions aucune information. On a essayé de se brancher sur les câbles téléphoniques qui aboutissaient à la prison Montluc, et on a découvert, parce qu'on a réussi à capter des conversations, on a découvert que le chef de la prison Montluc ne connaissait absolument pas les détenus qui seraient emmenés aux interrogatoires. C'était des Allemands venus de l'avenue Berthelot qui les choisissaient avant de les embarquer, et par conséquent les noms n'étaient pas cités. Donc nous ne savions absolument pas quoi faire. Et pendant ce temps, les jours s'écoulaient, et finalement Jean Moulin était transféré à Paris, et nous n'avons rien pu faire.
Michel Cugny.
Sur cette question, oui, plusieurs éléments nous manquent à chacun de nous, et d'une façon générale, je crois que les documents ne sortiront que si chaque Française et chaque Français a le souci de ce qu'a été cette époque de la résistance. Il faut dire que c'est un phénomène extraordinaire que montre bien Serge Ravanel, cette façon pour chaque individu qui entre en résistance de sentir quelque chose se produire à l'intérieur de lui sans avoir besoin d'attendre l'intervention de chef d'autorité quelconque. Et dans ce cas, ce n'est que rétrospectivement que le discours du 18 juin, l'appel du 18 juin, a une grande importance. Je crois que l'essentiel, c'est plutôt de voir une société qui, à un moment donné, à travers des individus précis, se révèle à elle-même dans le patrimoine qui est le sien, c'est-à-dire le patrimoine d'une démocratie. C'est en ce sens que la résistance française peut être un exemple, elle n'est pas le seul, mais tout de même, elle montre comment des individus peuvent porter en eux-mêmes des problématiques collectives. C'est ça qui est très important, c'est ça qui permet à des gens comme Moulin et à d'autres moins connus d'être dans des lignes d'héroïsme. L'héroïsme, comme Serge Rabanel le montre bien, c'est une chose toute simple. Simplement, il faut avoir à l'intérieur de soi la petite lueur qui renvoie à la collectivité.
Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, Michel Cuny, mais j'ai l'impression que derrière vos paroles, il y a l'attitude d'un certain nombre de gens au moment où Moulin est arrêté. Moulin est arrêté. Vous pensez, comme Rabanel, que Hardy est responsable. Mais ce qui me frappe, c'est que au moment où vous allez prendre votre responsabilité dans les groupes francs, juste à cette époque-là, Serge Rabanel, on a l'impression que la proposition, en tout cas c'est ce que vous nous laissez entendre dans votre livre, a été faite à Pierre. Pierre, c'est quelqu'un du mouvement Combat. On retrouve quelqu'un du mouvement Combat. Et que ce Pierre refuse cette responsabilité.
C'est tout à fait exact.
Si vous me permettez, Serge Rabanel, ça fait beaucoup de choses pour le mouvement Combat. Je vous lis, attendez, si ça fait beaucoup de choses. Bénouville, oui. Mouvement Combat, est au courant de ce que Hardy a été arrêté avant Caluire, et il laisse Hardy, malgré ses dires, aller à Caluire. Vous nous racontez qu'un certain Pierre devrait être responsable des mouvements et du corps franc, et qu'il abandonne, et qu'il vous laisse la place. On a l'impression que beaucoup de faits, Freinet accuse Moulin d'être un agent communiste. Ça fait beaucoup de choses qui tournent autour du mouvement Combat, et je voudrais savoir si ça vous paraîtrait une thèse hâtive de rassembler ces faits et de se dire les rapports entre Moulin et le mouvement Combat étaient très mauvais. Il n'y a jamais eu de projet conscient du mouvement Combat de faire arrêter Moulin, mais inconsciemment, tous ces faits contribuent à ce que Moulin est arrêté, et le mouvement Combat semble n'avoir pas joué un très beau rôle dans cette affaire. Serge Rabanel, est-ce que j'exagère?
Je pense qu'il y a eu toute une série d'imprudences, c'est tout à fait exact, mais je ne parlerai pas de volonté. La raison pour laquelle Combat pensait jouer un rôle militaire important, il tient d'abord à l'origine, à ses origines, Freinet, qui était officier de carrière, et qui a été un organisateur hors pair de la résistance, avec toute une conception militaire de l'action de la résistance. On ne peut pas lui dénier cela, c'est lui le véritable créateur, en tout cas intellectuellement, de ce qui sera l'armée secrète. On ne peut pas dénier non plus que dès le départ de la création de l'armée secrète, il y a eu un conflit entre De Gaulle et Freinet. Et ce conflit tenait à ce que De Gaulle voulait absolument que cette armée secrète en création soit détachée des mouvements de résistance qu'il avait créés. Ce qui était tout à fait inadmissible. Je dirais, en souriant, c'était imbécile. Et pourtant, De Gaulle était pour cette thèse, parce qu'il voulait absolument que l'appareil militaire de la résistance dépende de lui directement. Freinet n'exprimait pas un désaccord, je dirais, avec De Gaulle sur le plan affectif, mais tout simplement, il avait raison dans les principes. Alors, ça veut dire que Combat s'est toujours intéressé aux questions militaires. Il était normal que dans le triumvirat que nous devions faire pour diriger les groupes francs lorsqu'ils ont été créés en juin 1943, il était normal que le patron fût un homme de Combat. C'était reconnu et on me l'avait dit. Pourquoi? Parce que Combat avait une tradition de groupes francs et par conséquent, on pensait que c'était normal. Cela dit, ça n'a pas empêché que lorsque le nommé Pierre, dont je ne donne pas le nom, a tellement hésité que finalement il a refusé d'occuper cette fonction, on me l'a confié alors que je venais du mouvement Libération, et je sais, pour l'avoir appris ensuite, que Bénouville a voté pour moi alors qu'il ne me connaissait pas, mais il a voté en fonction des arguments qu'on lui donnait.
Michel Cuny.
Ce que je voudrais dire, en faisant le lien avec ce que j'ai dit précédemment, c'est cette histoire de porter le collectif en soi, parce que Jean Moulin le portait, lui, d'une façon très spécifique, c'est-à-dire qu'il était, lui, lié au Front Populaire. Et à l'intérieur de la résistance, certains ne supportaient pas l'idée du Front Populaire et d'un éventuel Front Populaire au moment de la libération. Ce qui peut expliquer ensuite ce qui s'est passé avec le mouvement Combat, d'une façon générale,
et il y a le dans le détail. Entre Combat et Moulin.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Merci Michel Cuny. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur avec Françoise Petit-Demange du livre « Fallait-il laisser mourir Jean Moulin ?» et que Serge Rabanel est l'auteur de « L'esprit de résistance » publié au Seuil.